Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Je voudrais donc vous rappeler pourquoi la séduction, l'égarement des chrétiens est possible. Et vous rappeler les 5 points, parce qu'il est bon de se rappeler les choses. Les 5 points qui font que la séduction est possible pour les chrétiens. Premier point, ce que nous devons comprendre, c'est qu'un homme né de nouveau ne reçoit pas aussitôt toute la connaissance de Dieu, toute la connaissance de lui-même et toute la connaissance du diable. Donc quand nous venons au Seigneur et que nous sommes touchés par le Seigneur, il y a une marche avec Dieu qui va nous faire prendre conscience des réalités spirituelles. En fait, lorsque nous arrivons au Seigneur, nous n'avons pas conscience de toutes les réalités spirituelles. C'est notre marche avec le Seigneur qui va nous faire découvrir ces choses. Et dans ce sens, je me dis que tout ce que nous sommes en train de regarder ensemble, c'est bel et bien écrit dans l'Écriture, dans la parole. C'est pas une invention, c'est bel et bien écrit dans la parole du Seigneur. Alors, le premier point, bien sûr, lorsqu'un homme est né de nouveau, il ne reçoit pas aussitôt la connaissance totale de Dieu. Dieu va se faire découvrir. Il n'a même pas connaissance des attaques de l'ennemi, parce que dès le départ, c'est un électrochoc entre Dieu et la personne, c'est un temps de fiançailles, d'amour, un temps où on découvre le Seigneur. Et on est loin des réalités spirituelles. On vit un petit peu comme sur un nuage. Mais bientôt, la réalité va se faire. Et il va bien falloir prendre conscience de la réalité. Deuxièmement, lorsque nous venons au Seigneur, pendant un long moment de notre vie, avant que l'Esprit de Dieu nous renouvelle dans notre esprit était enténébré. Beaucoup de ténèbres. Et je pense que il y a parmi vous qui pourraient témoigner que, avant de rencontrer le Seigneur, leur esprit était enténébré. Tout au moins pour ceux qui ont pratiqué des choses dans l'occulte, dans le spiritisme, dans les choses des ténèbres, ils avaient l'esprit enténébré. Aveuglé par Satan. Donc, nous avons vu que l'esprit enténébré, l'intelligence voilée, on avait ça dans 2 Corinthiens 4:4, me semble-t-il. Et si notre évangile est voilé, il est voilé en ce que le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Donc, l'intelligence a été enténébrée, nous étions aveuglés par Satan, 2 Corinthiens 4:4, et notre intelligence n'est renouvelée que dans la mesure où la lumière pénètre en nous. Donc, nous n'avons pas la totalité de la lumière dès que nous venons au Seigneur. La lumière va grandir de plus en plus en nous. C'est un petit peu comme on est au bout d'un tunnel, on avance, et la lumière devient de plus en plus grande. Mais, au départ, la lumière nous est donnée. Et dans la mesure aussi où l'homme s'approprie de la lumière. Troisièmement, l'intelligence. Et là, je voudrais y revenir. L'intelligence humaine est le terrain par excellence de la séduction. Je parle de l'intelligence non renouvelée. L'intelligence humaine, c'est le terrain de la séduction. La séduction consiste donc à accepter l'erreur comme vérité. Il y a des gens qui peuvent être très sincères dans les choses qu'ils croient et pourtant ils sont dans l'erreur. Vous voyez, ceux qui sont dans les sectes, ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Et en réalité, ils sont dans les ténèbres, ils sont enténébrés. La séduction se greffe donc sur l'ignorance. Plus tu ignores, et plus tu es en état d'être séduit, surtout dans le domaine spirituel. Ce n'est plus une affaire de moralité, c'est-à-dire une affaire de sincérité ni de droiture, ce n'est pas ça qui rentre en ligne de compte. C'est pour ça que le chrétien qui est sincère et fidèle en ce qu'il sait, il est toujours vulnérable en ce qu'il ignore. 2 Corinthiens chapitre 2 et verset 11, peut-être qu'on va le lire, ça serait bien. 2 Corinthiens 2, 11. Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous avons vu la dimanche, pendant le culte, que l'ignorance fait partie de la connaissance. Agnoneo, ça veut dire ignorant. La racine, c'est gnosis, c'est la connaissance. Le A est privatif, donc c'est sans connaissance, mais la séduction se greffe directement sur l'intelligence humaine. C'est pour cela que lorsque nous sommes devant la parole de Dieu, si nous ne sommes pas renouvelés par le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas saisir toute la réalité de ce que Dieu veut nous communiquer. Ce n'est que par l'Esprit de Dieu que nous pouvons saisir les choses, par l'Esprit de révélation. Chaque fois que vous avez compris quelque chose dans l'Écriture, chaque fois que vous en avez saisi le sens profond, c'est que Dieu vous l'a révélé. Et on pourrait faire témoignage ici, vous et moi, d'avoir lu l'Écriture en long et en large, d'avoir lu certains versets plus de centaines de fois, et puis la 101e fois, tout d'un coup, voilà qu'un éclairage spécial vient du ciel pour nous montrer qu'il a encore, il y a quelque chose à découvrir. Donc, l'intelligence est le terrain de la séduction. Quatrièmement, La pensée que Dieu garde de l'erreur les âmes sincères est en soi une séduction. Dieu te garde, tu ne seras pas séduit. Et si on est dans cet état d'esprit, si la pensée que Dieu garde de l'erreur les âmes sincères est en soi une séduction parce qu'elle empêche d'être sur ses gardes et ne tient pas compte des conditions à remplir pour que Dieu garde son enfant. Il y a des conditions qui doivent être remplies de notre part pour que Dieu puisse nous garder. Dieu me garde. Oui, Dieu me garde à condition que je reste dans sa parfaite volonté. Si je sors de la volonté de Dieu, alors je risque des attaques de l'ennemi. Et cela est tellement vrai que dans le livre de l'Ecclésiaste, il nous est dit que derrière chaque clôture, si nous franchissons les clôtures qui sont l'ordre de la volonté de Dieu, si je me maintiens au centre de la volonté de Dieu, je ne risque rien. Mais si je franchis la clôture hors de la volonté de Dieu, il est dit qu'il y a un serpent qui mord. Ecclésiaste, il me semble-t-il, c'est le chapitre 12. Christ, cinquièmement, n'aurait pas averti ses disciples en leur disant « Prenez garde que personne ne vous séduise s'il n'y avait pas eu danger de séduction. Si Dieu s'était chargé de protéger les siens, qu'ils fussent ou non sur leur garde, qu'ils connussent ou non le danger. » Jésus nous a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Donc voilà pourquoi la séduction est possible. Je viens de nommer toutes les raisons, les cinq raisons qui donnent la possibilité à l'enfant de Dieu d'être trompé, d'être séduit. On peut être séduit même par nos propres raisonnements. Quand nous nous substituons au Saint-Esprit pour essayer de donner une compréhension à la parole de Dieu, qui en réalité ne l'est pas comme nous le disons, tout à fait différente si Dieu nous révélait la chose. C'est pour ça que Jésus a dit quelque chose de très important. Il dit, ne soyez pas tous des maîtres, parce que vous serez jugés de la mesure dont vous aurez enseigné. Et je suis conscient pour ma propre vie. C'est pour ça que je vous dis la vérité. Parce que je suis conscient, si je vous cache des choses, ou si je tronque des choses, que Dieu me demandera des comptes. Savoir que la séduction est possible garde l'intelligence renouvelée accessible à la vérité. Si tu sais que la séduction est possible, ton intelligence est en état d'éveil. Tu seras sur tes gardes. On ne te fera pas avaler des vessies pour des lanternes. Et ceci est essentiel pour que Dieu puisse exercer sa protection en faveur des siens. Au contraire, une intelligence fermée à la vérité favorise l'action de Satan. Vous savez, les gens qui dans le monde ne veulent pas entendre parler du Seigneur, leur intelligence est fermée à la vérité. Eh bien, ils sont sous la domination de l'ennemi. Leur intelligence va être infestée par l'ennemi. Ils iront de pire en pire, reniant le maître. Alors ça, c'est pour l'enfant de Dieu. Mais est-il possible que l'Église soit séduite? Le Seigneur dénonce, au travers du message des sept églises de l'Apocalypse, il dénonce cette séduction. Par exemple, à l'assemblée d'Éphèse, il va dire que dans cette assemblée-là, il y a des faux apôtres. Que dans l'assemblée d'Éphèse, il se trouve des faux apôtres. À l'assemblée de Smyrne, le Seigneur fait aucun reproche, mais il dit qu'il y a de faux chrétiens qui sont de la synagogue de Satan. De faux chrétiens qui sont de la synagogue de Satan. Mais non, c'est pas possible que les chrétiens soient de la synagogue de Satan. Mais si, il y a des faux chrétiens. Il y a des faux chrétiens. Ça existe. Qui ont tout l'air de vrais chrétiens. Si vous les mettez là au milieu, ils vont être très spirituels. Mais dès qu'ils sortent dehors, c'est tout à fait autre chose. À l'assemblée de Pergame, Jésus va dénoncer deux choses. Il va dire, là, il y a la doctrine de Balaam et des Nicolaïtes. Or, les Nicolaïtes, du grec Nikao, qui veut dire vaincre, et Laos, les peuples, l'équivalent hébraïque, c'est Balaam. C'est la même chose. Balaam qui a essayé de séduire le prophète. Balaam, le prophète a une tentative de séduction. Et Balaam, en hébreu, veut dire vaincre le peuple. Am, c'est le peuple en hébreu. Baal, contre le peuple. C'est l'équivalent des Nicolaïtes dans l'Apocalypse, c'est pareil. Et Jésus va dire à cette église, à Pergame, d'ailleurs le mot Pergame en grec, il est très très intéressant, Pergamos, à travers le mélange, Jésus va dire là où siège Satan, à Pergame. Pergamos, Pergame, c'est une ville. Vous savez pourquoi le Seigneur dit là où siège Satan? Parce que quand Babylone, l'empire de Babylone a été défait, les chefs des ponts, tous les magiciens sont venus se réfugier à Pergame. Et ils ont installé à Pergame toute la magie babylonienne. Je vais vous donner quelque chose qui est véridique. Ne vous raidissez pas sur vos chaises. Mais voilà ce qu'il est dit. C'est que à Pergame, le roi Attal I La ville de Pergame d'abord était montée sur un roc, sur une montagne. On ne pouvait pas la prendre, si ce n'est que d'escalader la montagne pour la saisir. Et César a pu prendre cette ville. Et quand César a pris cette ville, Attale I est venu vers César et lui a remis les clés de la ville. Et en même temps, il lui a remis la couronne des magiciens de Babylone, où sur lequel était marqué Maximus Pontifex, le grand chef des ponts. Le grand chef des ponts, c'est celui qui pouvait dresser un pont entre les cieux et la terre. Souverain pontife, ne nous étonnons pas. C'est une tiare qui vient de cette ville de Pergame, où tous les magiciens de Babylone y étaient. C'est pour ça que le Seigneur dit, la ville où siège Satan, à l'assemblée de Sardes, une fausse vie spirituelle, à l'assemblée de Philadelphie, aucun reproche ne lui est fait parce qu'elle a gardé la parole de la persévérance. Quant à la Odyssée, la tiédeur, l'aveuglement, la pauvreté spirituelle. Donc voyez-vous, Satan, il ne cherche pas simplement à venir nous séduire, à venir essayer de nous séparer de Dieu, mais il attaque l'Église directement, et particulièrement dans l'Église, frères et sœurs, il attaque, et j'en suis très conscient, il attaque les serviteurs de Dieu. On va voir ça. Si l'ennemi est capable de faire tomber la tête d'une Église, l'Église est éparpillée. Comme il est dit, frappez, frappez, le berger et le troupeau, ça sera dispersé. Alors, comment fait-il pour attaquer plus particulièrement les serviteurs de Dieu? Eh bien, d'abord, il s'oppose à eux. Nous avons une scène que nous avons déjà vue dans Zacharie 3.1. Il me fit voir Josué, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui, pour être face à face contre lui. Premièrement, il est venu s'opposer pour accuser. Donc, les serviteurs de Dieu vont subir en règle des accusations. Mais nous savons que les accusations de l'ennemi ne sont que des mensonges. Et si les serviteurs de Dieu sont accusés, c'est parce que l'ennemi trouve dans le cœur de certains faux chrétiens la possibilité de les faire médire. Et faisons attention dans nos églises de cette sorte de chrétiens. Deuxièmement, il leur résiste en s'opposant à leur travail. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. C'est pourquoi, dit Paul, nous avons voulu aller vers vous, moi Paul, et une fois et deux fois, Satan nous en a empêchés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il les a empêchés? Pourquoi ont-ils empêché Paul d'aller vers les Thessaloniciens? Empêcher, ça veut dire qu'il l'a arrêté en marche, en lui coupant la route. Voilà ce que ça veut dire. Il y a fait obstacle. Il l'a empêché. Donc, il a résisté au travail de Paul, parce que Paul voulait aller dans les églises de Thessalonique, les visiter, et Satan s'est mis entre lui et les églises. Il s'est opposé. Et Paul dit, n'est-ce pas, une fois et deux fois, et Satan nous en a empêchés. Pourtant, Paul n'est-il pas le héros du Nouveau Testament? N'est-il pas l'homme qui nous a donné toutes les doctrines? N'est-il pas l'élu de Dieu? N'a-t-il pas été scellé par Dieu? Comment se fait-il que Satan peut l'en empêcher? Parce que Paul devait aussi comprendre ce qu'est le combat spirituel pour pouvoir nous l'enseigner par la suite. S'il n'avait pas fait ses expériences, il n'aurait pas pu nous dire tout ce qu'il nous dit aujourd'hui, l'apôtre Paul. Troisièmement, il réclame les serviteurs de Dieu pour les cribler. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. » Ils n'étaient pas avec Jésus, ils ne suivaient pas Jésus. Du matin au soir, ils n'étaient pas à la suite du maître, mais ils étaient encore charnels. Il fallait qu'ils fassent l'expérience de l'épreuve, de la souffrance. Et Satan, il s'était permis de réclamer Pierre pour le cribler. Qu'est-ce que ça veut dire, cribler, cribler, frères et sœurs? Pour le passer au tamis, pour le secouer, pour l'agiter, pour essayer de renverser sa foi. Est-ce que Jésus n'avait pas dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église? Si il tape la tête et il tape celui que Jésus a institué comme étant quelque part celui à qui il a donné l'autorité pour bâtir l'église après lui, s'il les tape les deux, c'est fini, il a gagné. Quatrièmement, il fait jeter les serviteurs de Dieu en prison. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Et voyez-vous, frères et sœurs, Regardez comme c'est intéressant de lire l'Écriture avec les yeux du Saint-Esprit. Regardez comme c'est intéressant de savoir ce que l'Écriture nous dit. Il est dit, là dans ce verset 10, « Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. » Il n'y a-t-il pas eu des serviteurs de Dieu dans l'Allemagne de l'Est, en Russie, qui ont été en prison pendant de longues années? Nous avons des témoignages que nous avons entendus de frères qui ont souffert. Ils ont été éprouvés. Mes frères et sœurs, quand vous êtes éprouvés, que vous passez par le feu de l'épreuve, Dieu est en train de vous purifier comme l'or. Il veut quitter toutes les scories de nos vies pour nous rendre comme de l'or noble, noble, ayant de la valeur. Il s'oppose en manipulant les foules quand l'évangile est annoncé. Il est le grand prédicateur de l'idolâtrie. Et alors là, je vous renverrai un long texte des Actes des Apôtres, Actes 19, versets 23 à 41. Vous le connaissez, ce passage. C'est là où Paul va à Éphèse et commence à prêcher l'évangile et commence à déranger tous les artisans qui sont là et qui font des petites statuettes Artémis. À qui n'a pas sa petite statuette chez soi? Artémis, la reine du ciel. Et il vient prêcher l'évangile. Il dit non, pas Artémis, Jésus-Christ. Osiris, Artémis, et j'en passe et des meilleurs, on a monté en idolâtrie. Ça dure depuis Babylone. Tu as bien lu les deux Babylones d'Islope. C'est depuis la nuit des temps, cette histoire. C'est pas d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire à Paul? Simplement, ils veulent le lapider. C'est pas grave, hein. Si tu prêches, toi, aujourd'hui, une telle chose, et toute la ville fut remplie de confusion, et d'un commun accord, ils se précipitèrent dans le théâtre, entraînant avec eux Gaius, Aristarque, macédonien, compagnon de voyage de Paul. Mais qu'est-ce que tu viens foutre, Paul, à Éphèse? Qu'est-ce que tu viens faire là? Tu veux nous faire, briser notre business? C'est comme si demain tu allais dans un lieu de pèlerinage et que tu commences à dire Jésus-Christ est Seigneur, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Mais tu te fais lyncher. Tu te fais lyncher. C'est ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Sixièmement, il se déguise en ange de lumière pour apporter un autre évangile. Il se déguise, c'est-à-dire il change de figure, il se transforme, il revêt une autre forme, il se travestit, il se camoufle. Il se travestit. Ouais, les gays. Il travaillait, excuse-moi, parce que j'ai vu un reportage, mais j'ai rien contre les banques. J'ai vu un reportage où il y avait un banquier qui travaillait dans une banque, et le soir, dès qu'il rentrait, il commençait à se pomponner, à se faire comme une femme, avec des talons, et puis il allait, il sortait en boîte de gay. Il se travestit, il se déguise, il se transforme, comme Satan le fait. Il revêt une autre forme. Il se déguise en ange de lumière pour apporter un autre évangile, mais en plus, il veut ensorceler les croyants. Oh oui, Galates chapitre 3 verset 1. Ô Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous devant les yeux de qui Jésus-Christ a été dépeint, crucifié au milieu de vous. Ensorcelé, qui vous a jeté un sort, qui vous a fasciné, qui vous a envoûté, qui vous a enchanté, qui vous a charmé. Et c'est comme ça que Paul va dire à un moment donné dans les Corinthiens, au chapitre, me semble-t-il, au chapitre 11 de la deuxième aux Corinthiens, il va dire je vous ai marié, je vous ai fiancé à un seul mari, le Christ, pour vous présenter à lui comme une vierge, je chaste et pure, mais je crains que de la même manière que Satan a séduit Ève, vous soyez vous aussi séduits. Car si quelqu'un venait vous apporter un autre évangile que je vous ai apporté, vous l'écouteriez volontiers. Vous avez la démangeaison d'entendre des bonnes choses. Dieu a-t-il vraiment dit ces choses? Dieu a dit, tu adoreras ton Dieu seul. Seulement Dieu. Il n'y a pas besoin de chemin détourné pour aller vers Dieu. Vous savez que le chemin le plus direct, c'est le chemin le plus court. On n'a pas besoin d'un tas d'intercesseurs ou d'intermédiaires. Regardez d'ailleurs, hein, vous avez vu les intermédiaires, ce qu'ils font? Le produit vaut 1 euro, ça passe par un, ça passe par l'autre, ça passe par l'autre. Quand tu vas pour le payer, ça te fait 10 euros pour toi. Va plutôt à celui qui l'a fabriqué, tu payeras moins cher. C'est comme dans la foi, va plutôt vers Jésus que vers ses saints. Et puis comme l'homme est superstitieux, on en a fait des saints. et de toutes sortes. Alors, on en a un sur le pare-brise de la voiture, Saint-Antoine de, je sais pas quoi, de Padoue. Il y a Saint, je sais pas qui, Saint, je sais pas quoi, Saint, je sais pas si, Saint, je sais pas l'autre. Et puis, voilà, toute l'attirail des saints derrière toi. Ils vont te protéger. Mais il y a un seul qui te garde. C'est Jésus, mort et ressuscité d'entre les morts. Il n'y en a pas d'autre. S'il n'en était pas ainsi, dit Jésus, je vous l'aurais dit. Mais il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et nul ne va au Père s'il ne passe par qui? Mais par moi. Il a une panoplie, vous avez vu? Il a une stratégie. Il a des plans bien arrêtés. Comme nous, nous sommes des niais. Oui. Il faut qu'on reçoive une baffe sur la figure pour qu'on commence à réaliser qu'on l'a prise, la baffe. Alors que la parole de Dieu nous avertit, nous met en garde. Et ne dis pas que quand tu es un peu éprouvé, ah là 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 là, le diable il m'éprouve. Oui, le Seigneur permet qu'il te touche un petit peu pour voir comment tu vas réagir. Mais il faut prendre conscience, frères et sœurs, qu'on est dans un combat, qu'on est dans une guerre. Et vous et moi. Et il n'y a pas de petits chrétiens et de grands chrétiens. Il y a des enfants de Dieu nés de l'Esprit de Dieu. Il s'attaque à tous. Il veut détruire l'Église. Il est venu animé d'une grande rage pour faire la guerre aux saints. Donc nous avons vu les différents grades dans le royaume de Satan, les différentes responsabilités, les principautés, les dominations. Nous avons vu toutes ces choses pour arriver à la dernière catégorie des esprits les plus vils, les plus souillés, ceux qui veulent nous pourrir la vie et qui se repaissent du péché de l'homme, c'est-à-dire les esprits méchants, les esprits impurs. C'est la dernière catégorie, celle qui est la plus proche de nous. Esprit méchant, esprit sale, impur, esprit non purifié, esprit immonde. Nous devons les voir maintenant en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre. Esprit méchant, esprit impur, esprit mauvais, esprit pervers, esprit vicieux, ce sont les esprits méchants appelés aussi esprits impurs et souillés. Vous le verrez dans l'écriture, ils sont une fois appelés comme ça, une fois appelés autrement. Donc si nous manquons de précision concernant les principautés ou les autorités, bien que l'écriture ne nous laisse pas dans l'ignorance, on l'a déjà vu, par contre nous pouvons constater leur agissement sur les gouvernements et la société en général. Et cet après-midi, j'étais en train de réfléchir sur ce que je vous avais dit sur Ésaïe 14, verset 9, où il est dit que quand le roi de Babylone, qui était identifié à Lucifer, descend dans le Sheol, les rois de la terre qui sont dans le Sheol lui disent « Est-ce bien toi, toi qui subjuguais les nations ?» Ça veut dire s'il les subjuguait, ça veut dire s'il les mettait sous son joug, ça voulait dire que les nations, les gouvernements des nations étaient sous le joug de Satan, comme Pharaon et bien d'autres hein, au cours de l'histoire. Ces puissances donc ont perverti la société en général, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan familial. C'est comme un travail de minage. Il a mis des mines partout. Il fait exploser tout au moment où ça lui plaît. Toutes les valeurs bibliques concernant l'ensemble de la société ont été et sont encore aujourd'hui perverties. Frères et sœurs, combien de pays avait sa constitution, avait ses fondements sur la Bible? Combien? Regardez l'histoire. Et aujourd'hui, au nom de la laïcité, on a expurgé tout ce qui est la foi. On va même jusqu'à essayer de rayer du calendrier de chaque année des fêtes qui sont des fêtes religieuses. On voulait pas à un moment donné rayer la Pentecôte. On va bientôt rayer d'autres fêtes, ne vous y trompez pas. On va expurger la notion de la foi dans la nation au profit de Satan. Regardez nos jeunes dans les écoles. Il n'y a pas un livre où on apprend à lire, où il n'y a pas des sorciers, des sorcières et des formules à apprendre. Et la musique, hein, ACDC, rock metal, et en avant, Antichrist. Et la peinture, les arts, c'est pareil. Il a tout perverti. Mais rendons gloire au Seigneur qu'il reste encore quelques lumières au milieu des ténèbres. Comme il y avait dans le pays de Goshen des lumières, c'était la maison des Israélites, alors qu'en Égypte, il y avait des ténèbres de partout, sauf tant que tu demeureras attaché au Seigneur, il y aura la lumière dans ta maison. Malgré qu'il y ait d'épaisses ténèbres autour de toi, il y aura toujours la lumière dans ta maison. Quant aux esprits méchants, mauvais, impurs, souillés, les esprits démoniaques, ceux qui sont en contact directement avec l'homme, là nous avons une foison de renseignements qui devraient nous faire prendre garde à leurs agissements. Alors on va dresser une liste de leurs personnalités à ces esprits-là. Il faut que vous soyez au courant. Ce sont des esprits et comme tels, ils cherchent l'habitation d'un corps humain ou même d'un animal pour y demeurer. Ils peuvent même y habiter en nombre. Et nous allons voir des passages dans l'Écriture. Alors, ils cherchent l'habitation d'un corps humain. Vous avez ça dans Matthieu 12, versets 44-45. Alors, il dit, l'esprit impur, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Je veux que vous lisiez ça. Matthieu 12, versets 44-45. Et vous allez vous le lire, pas moi, vous allez vous le lire. Matthieu, chapitre 12, versets 44-45. Qui veut lire le début du verset? Ah, attends, je retournerai où? Dans ma maison. Mais d'où il est sorti? D'un corps humain. Pas de ma maison, non. D'un corps humain, il est sorti. Lis les versets par avant, si tu veux. Peut-être ça sera plus clair. Je retournerai dans ma maison, que je suis bien au chaud là-dedans. Parce qu'un esprit, c'est quelque chose de désincarné. Il faut qu'il trouve un corps pour y demeurer. Vous avez vu le culot, il dit, dans ma maison, d'où je suis sorti. Et y étant venu, il la trouve vide, balayée et ornée. Alors, il va et prend avec lui sept autres esprits plus méchants que lui-même. Et mais vous pesez les mots, hein. Sept autres esprits plus méchants que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Le chauffage, il y a tout ce qu'il faut dedans. 37 degrés, c'est bon. Il y a de quoi se repaître manger, le péché. C'est bon, je mange. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. Ah, boum, sur la tête. Elle est bien, notre génération. Elle est très, très gentille. Ils ont commencé dans les cités du côté de Paris avec des petites armettes. Ils en sont maintenant à la Kalachnikov. C'est monté en puissance de destruction. Alors, il est rentré, sa maison, c'est le corps de l'homme. Mais aussi, il peut rentrer dans le corps des animaux. Oh, dites donc, au fait, il y a des légendes qui courent, comme les loups-garous. Des choses comme ça, des choses très étranges, n'est-ce pas? Se pourrait-il que des esprits mauvais soient dans le corps d'animaux? On va le voir, on va le voir. Matthieu, chapitre 8, versets 30 à 32. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons priaient Jésus disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Mais ça, frères et sœurs, c'est l'histoire du Gadaréen. Vous connaissez l'histoire. Cet homme qui était enchaîné dans les sépulcres. Il était tellement agité par les démons. Attention, quand on viendra sur la partie pratique de ces choses-là, vous verrez que je vous dirai certaines choses. Quelqu'un qui a des démons en lui... Parce qu'il est allé loin dans le péché, frères et sœurs. Il faut être vraiment costaud et avoir la force du Seigneur pour le tenir. J'ai vu des petites femmes maigrelettes comme ça, qui est capable de soulever trois hommes en même temps. J'ai vu des femmes dans des pays hors que la France, c'est même mon expérience, j'ai vu des femmes ramper comme des serpents. Mais comme des serpents, ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Donc on voit, ils rentrent dans les hommes, ils rentrent dans les animaux. Marc 1. Verset 26. Voilà un exemple de ce que je vous étais en train de vous dire auparavant. L'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et poussant un grand cri. Agité avec violence. Vous savez ce que je suis en train d'enseigner ce soir, c'est pas quelque chose qu'il faut écouter avec une oreille distraite. C'est des choses tellement sérieuses. Parce que je vous le souhaite pas, mais vous pourriez être confronté à de telles choses. Alors il serait bon d'avoir écouté ce que dit la parole de Dieu. Marc 5, 9, Jésus lui demande, « Quel est ton nom ?»« Légion est mon nom, répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Voyez-vous que les démons, les esprits impurs ont des noms spécifiques. Ces noms sont en relation avec leur activité dans la personne. Vous pourriez avoir des esprits de rejet, des esprits occultes, spirites. Nous en reviendrons avec ces choses un peu plus loin. Donc, un, ils cherchent l'habitation d'un corps humain ou même d'un animal pour y demeurer. Ils peuvent même y habiter en nombre. Légion, c'est quoi? C'est plus que 1000. Non, je crois que c'est 7000 et des poussières. Il était infesté de démons. C'est pour ça qu'il était enchaîné dans les sépulcres. On l'avait mis dans un cimetière en plus. Deuxièmement, ils ont une connaissance dépassant celle de l'homme. Marc 1, 24. Marc chapitre 1 verset 24, où il est dit, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Et les démons connaissent Jésus dans le monde spirituel, bien sûr, vous comprenez ça. Ils connaissent celui qui les a vaincus. Mais ils ont une connaissance qui est plus profonde et plus grande que l'homme. Ils sont capables de discerner en Jésus, homme, qu'il est le Saint de Dieu. Qui, et dans un autre passage, ils vont lui dire, tu es le Fils de Dieu. Hein? Les hommes, ils veulent pas croire, mais les démons, eux, ils croient. Et ils tremblent devant Dieu. Et nous, est-ce que nous tremblons devant les choses du Seigneur? Bof, bof, bof. Matthieu 8, 29. Et voici, ils s'écrièrent disant, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Regardez bien ce verset. Regardez bien ce verset. Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, Fils de Dieu? Donc, ils reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu. Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Ils savent très très bien qu'ils vont être jetés dans le temps de feu et de soufre. Ils le savent. Et ils vont lui poser la question, pourquoi tu viens maintenant? C'est pas encore le temps. Ils le savent. Les démons, ils savent qu'il y a un enfer. Mais les chrétiens, ils savent rien du tout. Ils ont connaissance de leur avenir. Matthieu 8, versets 28 à 29. Il dit ceci, quand il arriva à l'autre rive, dans le pays des Gergéséniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent à sa rencontre. Ils étaient très violents, en sorte que personne ne pouvait passer par ce chemin-là. Et voici, ils s'écrièrent, disant, à nouveau, ils vont dire, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils Jésus, fils de Dieu? Es-tu venu ici avant le temps pour nous tourmenter? Voilà, à nouveau, ils savent. Jésus n'était pas venu pour les tourmenter parce que Jésus connaît la fin de tous ces esprits. Il était venu pour libérer les personnes. Il ne confond pas le jugement que Dieu va donner et la miséricorde que Dieu déploie pour sauver des âmes. Jésus ne fait pas d'amalgame. Il sait très bien ce qu'il fait. Ils nous connaissent parfaitement. Ils nous connaissent parfaitement. Acte 19, versets 14 à 18, à 16, pardon. Très intéressant ce passage. Il y avait là sept fils de Sceva, juifs, principal sacrificateur qui faisait cela, c'est-à-dire c'était des exorcistes juifs. Mais l'esprit malin répondant leur dit, regardez bien ce qu'il va dire, ils vont dire ces esprits malins. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit malin s'élança sur eux et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Attention, si vous n'êtes pas mandaté par le Saint-Esprit pour vous opposer à des esprits méchants et mauvais, n'allez pas lutter avec eux. Si vous pouvez chasser des démons, c'est parce que Jésus exerce son autorité. C'est pas vous qui avez l'autorité, c'est le Seigneur. Et le Seigneur vous couvre dans ces choses. Mais n'allez pas faire comme les fils de Sceva. Au nom de Jésus, sors et tu vis dans le péché, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir la raclée que tu vas prendre. Les démons, ils sont capables de t'attaquer au travers de la personne. Ils sont capables de te cracher, ils sont capables de te frapper. Ils sont capables de te blesser. Et là, ils sont partis nus. Ça veut dire que tous leurs vêtements ont été déchirés. Mais c'était pas n'importe qui, ces fils de Sceva. C'était les fils du grand sacrificateur. Le Père était une autorité dans le monde religieux. Mais les esprits en ont que faire de l'autorité religieuse. Ils craignent que ceux qui sont animés de l'Esprit de Dieu. Donc, ils nous connaissent parfaitement. Ils ont une volonté qui leur est propre. Matthieu 8, 31. Et les démons le priaient, disant, si tu nous chasses... Et voilà qu'ils ont exprimé leur volonté. Permets-nous de nous en aller dans le troupeau des pourceaux. Il leur dit, allez. Et eux sortant s'en allèrent dans le troupeau des pourceaux. Voici, tout le troupeau des pourceaux se rua du haut de la côte dans la mer. Ils moururent dans les eaux. Ils dialoguent au travers des gens qu'ils possèdent. Attention aux mensonges. Parce que quand vous pratiquez une délivrance, si vous n'avez pas le discernement, vous risquez de vous faire mener en bateau. Marc 1, verset 23-26. Il y avait dans leur synagogue... il y avait dans l'église, dans la synagogue plutôt, c'est plutôt chez les juifs, c'est pas chez les chrétiens ça. Un homme possédé d'un esprit immonde, tiens, oh, il était assis dans la synagogue. Mais dans l'église aussi, il y a des gens qui viennent. Et dès que la louange et l'adoration commencent et que la puissance de Dieu se manifeste, tu voyais la manifestation des choses. Il y avait dans la synagogue un homme possédé d'un esprit immonde, il s'écria disant, quel scandale! C'est ça. Il s'écria, disant, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus le Nazaréen? Es-tu venu pour nous détruire? Je te connais. Qui tu es? Tu es le Saint de Dieu. » Et Jésus le tança, disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et l'esprit immonde, l'ayant déchiré, et c'est déchiré intérieurement, hein, pas extérieurement, à l'intérieur, il déchire les personnes. L'ayant déchiré, ayant crié à haute voix, sortit de lui. Marc 3:11. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, c'est-à-dire quand ils voyaient Jésus, mais attendez, je rêve. Qu'est-ce que je suis en train de lire là? Les esprits impurs, quand ils voyaient Jésus, se prosternaient devant lui et s'écriaient. Ils reconnaissaient sa toute-puissance. Ils se prosternaient. Tu es le Fils de Dieu! Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous voyez l'image? Ils se prosternaient devant lui. Marc 5:7. Et il s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas !» Oh, un démon qui se réclame de Dieu. C'est quand même bizarre cette chose-là. Il faisait référence à Dieu afin que Jésus ne le tourmente pas. Il reconnaît en Jésus qu'il est le Fils du Dieu très haut. Ils ont une expression de leur voix. Ils s'expriment au travers de la voix des hommes. Frères et sœurs, dans certaines délivrances, vous voyez des femmes qui parlent avec des voix d'hommes. C'est les démons qui s'expriment. Vous voyez des hommes qui parlent avec des voix de femmes. C'est des démons qui s'expriment au travers des personnes. Vous êtes étonnés de ce que je vous dis, n'est-ce pas? Pourtant, c'est dans la Bible. Tout ce que je vous ai dit, c'est dans l'Écriture. Ou alors nous sommes aveugles, nous comprenons rien. Ou alors nous avons lu la Bible comme un beau roman. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Mais c'est dans l'Écriture. Réveille-toi, Église. Lors de leur expulsion, ils meurtrissent l'homme intérieurement. Marc 1:26, et l'esprit immonde, l'ayant déchiré, ayant crié à haute voix, sortit de lui. L'ayant déchiré, ça veut dire quoi? Voilà, je veux préciser ce mot. Sparazo en grec veut dire le déchirement va se manifester comme des convulsions. Il va avoir des secousses, convulser, secouer, être agité convulsivement ou faire des efforts convulsifs. Donc, vous allez voir la personne va faire des bonds par terre. Et elle va souffrir parce que les esprits à l'intérieur sont en train de s'agiter. Marc 9, versets 17 à 19 et versets 26 et 27. Je vais vous le lire. Et quelqu'un dans la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. » Et partout où il le saisit, il l'agite violemment. Il écume, il grince des dents, il devient sec, tétanisé. Et j'ai dit à tes disciples de le chasser, ils n'ont pas pu. Verset 26. « Ayant crié et l'ayant violemment déchiré, il sortit. Et l'enfant devint comme mort, de sorte que la plupart disaient, il est mort. Et Jésus, l'ayant pris par la main, le redressa et il se leva. » Donc, dans certaines délivrances, il y a des gens qui, à un moment donné, on dirait qu'ils sont sans vie, il n'y a plus de vie. Ça, c'est un piège de l'ennemi. Il les met dans un état d'inconscience, parce qu'il ne veut pas sortir. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. « Voici, je vous ai donné toute autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous si nous sommes soumis au Seigneur. » Il décuple la force de ceux qui sont possédés. Ils agissent sur leur corps. C'est l'histoire des Gadaréens. Il est dit qu'ils étaient très violents. Ils tourmentent cruellement les gens. Matthieu 15, 22. Et voici une femme cananéenne de ces contrées-là, sortant, s'écria lui disant, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est cruellement tourmentée d'un démon. Ils frappent d'infirmité les personnes, les affligent de diverses maladies, les rendent muettes, sourdes, épileptiques, les jettent dans l'eau et dans le feu, et pas seulement les personnes adultes, mais aussi les enfants. Cependant, il nous faut distinguer les maladies mentales des désordres psychiques. On aura à revenir là-dessus. Ils peuvent manifester leur influence par un ascétisme religieux conduisant à l'impureté. 1 Timothée 4:1. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostariseront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie, ayant leur propre conscience cautérisée. Ils peuvent s'attaquer à la religion et provoquer l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi dans toute la vérité révélée dans les Écritures. Et finalement, ils surgiront hors de l'abîme, libérés pour devenir l'un des plus effroyables moyens de jugement apocalyptique qui mettra un terme à notre âge, celui de la dispensation de la grâce. Vous avez ça dans Apocalypse 9, versets 1 à 11 et verset 20, où il nous est dit là que le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée et elle ouvrit le puits de l'abîme. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Apocalypse 9. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur... Vous vous rappelez quand je vous ai dit que l'enlèvement, c'était pas question du sceau de l'esprit, mais que c'était question de marque sur le front? Vous vous rappelez cela? Parce que s'il avait été question du sceau de l'esprit pour être enlevé, je vois pas pourquoi les autres 5 vierges qui avaient de l'huile n'auraient pas été enlevées non plus. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons et c'est dans leur queue qui était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Amen. Voilà. On a vu un petit peu quelques caractéristiques de ces esprits immondes, impurs. Et nous verrons un exemple dans l'Écriture la semaine prochaine, un exemple comment ces esprits agissent pour amener l'homme à la mort. Et nous prendrons comme exemple Saül, le roi Saül. Et nous verrons au cours des étapes de la vie du roi Saül comment cela a été engendré par les esprits mauvais pour l'amener jusqu'à la mort, même jusqu'au meurtre qui voulait tuer David. Voilà, que Dieu vous bénisse et que vous soyez sortis de cet enseignement ce soir avec des convictions dans votre cœur que les choses qui se présenteront devant vous ne vous tromperont pas. Amen. Père, merci. Merci dans le nom de Jésus ce soir pour ce que tu nous as fait comprendre. Cela est dans ta parole. Nous n'inventons rien, nous n'ajoutons rien, nous ne retrouchons rien, Seigneur. Merci de nous avoir enseigné dans ces choses du combat spirituel pour que nous ne soyons pas, Seigneur, sans armes, soyons pas, Seigneur, sans défense, mais tu nous enseignes, Seigneur, à revêtir toute l'armure de Dieu. Merci, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.